Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va?
Super bien.
Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans RTL vous régale. Alors, vous savez que le parcours du Tour de France de l'été prochain a été dévoilé ce jeudi. Oui. Nous allons donc ce matin vous dévoiler une nouvelle étape de ce qui commence quand même à ressembler très fort à notre Tour de France à nous, notre Tour de France de la régalade. Arrivée annoncée au sprint à Niort ce matin, puisque nous sommes dans les Deux-Sèvres. Avec dans la caravane publicitaire, au rayon des produits régionaux de l'étape, des casquettes Chabichou et des ballons de plage Panzani. Explication dans quelques minutes. Et puis figurez-vous qu'en préparant cette émission, j'ai fait des petites recherches. Oui. J'ai découvert qu'il y a 41 ans, quasi jour pour jour, que Valéry Giscard d'Estaing posait son hélicoptère à Niort pour une visite officielle à la capitale des mutuelles. Il se serait déclaré ce jour-là, je cite, « fier et heureux d'être dans les Deux-Chèvres ». Ce qui, au pays du Chabichou, a fait grincer des dents quand même. Hein. Et les maillots jaunes de la gourmandise, voici Louise Petit-Renaud.
Bonjour, bonjour à vous.
Il est notre maillot vert éternel, sponsorisé par la chartreuse VEP. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange. Et sur la route du Tour, un frigo, un défi et un super cadeau. Écoutez ça, un séjour de deux nuits avec un dîner à l'hôtel Relais Château 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien.
Génial.
Vous en rêvez, nous allons le faire pour vous. Pour jouer avec nous, vous appelez tout de suite le 3210 ou vous envoyez le mot régal suivi de votre ingrédient par SMS au 64 900. Je rappelle que vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler. Je vous souhaite bonne chance. Et dans la playlist de ce matin, Soft Cell. Tainted Love. Il y aura aussi Calogero ce matin. Calogero avec Le Temps, son nouveau single extrait de l'album Centreville. RTL vous régale dans les Deux-Sèvres. C'est en direct et c'est parti jusqu'à 11h30. L'avenir, voici Florent Pagny.
C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. La reinette de ses souffrances, issue de nos premiers cris. C'est des projets de vacances dans des pays merveilleux, avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera en mille fois mieux. Des regrets à satisfaire, avec la chance au milieu. On sera ce qu'on espère, on ne sera jamais vieux. On deviendra un bon père, on dira droit dans les yeux. Tout ce qu'on n'a jamais su dire, on est fait pour bâtir là. Sera juste, les bons auront le pouvoir, les gentils auront leur buste dans les allées du devoir. Plus de rixes, de querelles, plus de monuments aux morts. Les rues deviendront si belles qu'on vivra presque dehors. Les pays pourront s'unir, il sera non violent. Oh, il sera non violent l'avenir.
Florent Pagny prédit l'avenir, ça donne ceci. Florent Pagny dans RTL vous régale pour démarrer ce matin. Nous sommes dans les Deux-Sèvres, préfecture Niort. Il n'y a pas des images immédiates qui vous arrivent, mais vous allez voir. On vous en parle dans un instant. Il est 10h20, très bon début de week-end sur RTL.
Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Bonne matinée sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
10h15, 11h30,
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Bonne matinée avec nous dans RTL vous régale. Nous sommes à Niort en ce début de week-end. Il est guide touristique, même s'il lit Niort. Voici Jean-Sébastien Petit-Demange. On va le dire tout de suite, on est dans l'ancien Poitou.
Absolument. C'est l'ancien Poitou. Le législateur de 1790 a dû phosphorer 10 bonnes minutes hein, pour baptiser le département. Il faut dire qu'ils en avaient quand même une pelletée à écluser. La Sèvre niortaise coule dans le département. La Sèvre nantaise aussi.
Du coup.
Donc, on appelait ça les deux Sèvres. C'est un département où l'on trouve de l'eau un peu partout. Et si je vous dis qu'une partie du marais Poitevin est sur les deux Sèvres, ça vous éclaire encore un peu plus. C'est une terre prisé par ceux qui aiment le calme, le vert et l'authentique.
Et Niort d'ailleurs a des allures de ville à la campagne. La préfecture de presque à peu près 70 000 habitants est aux portes du Marais Poitevin. C'est une ville vraiment aux allures sages qui est bâtie sur deux collines et c'est un point stratégique de passage de la Sèvre.
C'est un peu Game of Thrones quand même, hein, si vous regardez bien. Non mais réfléchissez-y.
Alors tellement stratégique que les invasions vikings et la guerre de 100 ans ont fait qu'Henri II Plantagenet fit construire une forteresse mégalomaniaque dont il reste deux donjons, des tours carrées absolument énormes. L'une de 28 mètres, l'autre de 23 mètres de haut, exemple parfait de l'architecture militaire médiévale. C'est impressionnant au possible. La chose qui est sûre, c'est que ces donjons sont parfaitement assurés.
Appelez-moi le directeur.
Je l'aurai un jour. Je l'aurai.
Je l'aurai. C'est Marcel Philippot, ça, dans Palace. C'est un rôle qui a servi pour une pub, pour une compagnie d'assurance. Alors, il faut expliquer quand même le rapport entre la compagnie d'assurance et Niort.
C'est assez surprenant, quand on ne connaît pas l'histoire, de découvrir que Niort est la ville des mutuelles et des assurances. Histoire qui commence en 1936, lorsque la MAIF, l'assureur auto des instituteurs, est fondée à Niort. Après la Deuxième Guerre, nous avons le CAMIF qui voit le jour. En 1950, la MAF arrive, puis la MASSIF. Au début des années 70, deux autres mutuelles s'installent dans les Deux-Sèvres. Du coup, Niort est la capitale des assurances en France. Alors, on peut aussi descendre. Et on va aller dans le sud-est du département. Nous allons aller du côté de Mel.
Et là, on se retrouve, alors j'en suis ravie, dans le paradis du Chablis-Chou. Il y a d'ailleurs une route consacrée à ce fromage de chèvre AOP dont je vous parlerai tout à l'heure.
La route du Chablis-Chou, ouais, c'est d'une poésie.
Et Mel fut également un centre d'élevage de mules et de baudets du Poitou. On venait de loin pour en acheter lors des foires. Mais bien avant encore, Mel fut une cité consacrée à...
Il y a eu de l'argent là-bas, c'est ça le truc? Des banques?
Non, c'est là-bas que se trouvait une mine d'argent, une des plus importantes d'Europe. Alors ne rêvez pas, elle a été exploitée jusqu'au Xe siècle. Et à l'époque carolingienne, le roi Charles le Chauve donna carrément l'exclusivité à la ville de battre monnaie pour la Grande Aquitaine. Tout est expliqué dans une vidéo en 3D qui introduit la visite de 350 mètres de galeries superbement reconstituées. On vous explique comment on séparait l'argent du plomb argentifère par coupellation, technique chère aux alchimistes. Et la présence de cette mine explique pourquoi les Vikings et les Arabes pillèrent la ville à plusieurs reprises.
Je me contente d'un verre de vin de ma petite vigne. Je sais quelques pâtes.
Des pâtes dans le patio, oui. Mais des panzanis.
Alors là, je suis très inquiet. Parce que je veux bien croire beaucoup de choses, mais le coup de la naissance des pâtes dans les Deux-Sèvres, il va falloir m'expliquer quand même.
Mais c'est une histoire qu'on trouve dans un Le saviez-vous du guide du routard Poitou. On apprend que Giovanni Ubaldo, italien de naissance, hein, comme son nom l'indique,
c'est écrit sur le programme à l'entrée,
prit la nationalité française en 1925. Il a 14 ans. Il choisit de se faire appeler Jean Panzani.
D'accord.
Et c'est à Partenay, à quelques kilomètres au nord-est de Niort, qu'il commence à faire des pâtes fraîches dans un grenier et qu'il livre à vélo. Après la Deuxième Guerre mondiale, il se construit sa première usine de pâtes fraîches, toujours appartenait. En moins de 20 ans, il devient le numéro 1 des pâtes. Et c'est quand Panzani est racheté par le groupe Danone en 73 que le fameux Don Patillon a fait son apparition.
Génial.
Et quand on se balade dans les Deux-Sèvres, il faut aller se perdre dans une partie du marais de Poitevin. Et c'est vraiment le cœur de cette Venise verte. Ça s'appelle Coulon. C'est vraiment à Coulon qu'il faut aller pour profiter d'une balade en bateau, par exemple.
Ouais. Sur une plate,
les plates,
au milieu des peupliers, des frênes têtards, des quelques vaches qui sont dans les prés, au milieu du marais, et au milieu de ce lieu tout en harmonie et en sérénité, on a un peu l'impression d'être dans le plus bel endroit du monde, ce qui est à peine faux, voire très vrai.
Nous allons briser cette sérénité naissante, car vous allez nous donner un ingrédient de votre frigo. Ah. Et mes deux collaborateurs, mes deux comparses, auront 1 minute 30 pour en faire une recette. Ça s'appelle le défi frigo. La France retiendra une fois de plus son souffle tout à l'heure, vers 11h, juste après l'info. Il y a à gagner ce matin, je le rappelle, un séjour de 2 nuits avec un dîner à l'hôtel Relais Château 5 étoiles Thalasso de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Vous jouez avec nous dès maintenant en appelant par téléphone le 3210. Pendant les prochaines minutes, le casting continue, ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message, c'est-à-dire de l'ingrédient en question, au 64 900. Que va-t-on rapporter de Niort et des Deux-Sèvres? Explication dans un instant sur RTL.
Restez bien avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite. Bon week-end sur RTL.
RTL, revivre ensemble.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et nous sommes dans les Deux-Sèvres ce matin avec Louise et Jean-Sébastien. On va vous donner quelques petits conseils si vous allez dans le coin, si vous passez par Niort par exemple. Qu'as-tu donc dans ton panier?
Qu'est-ce qu'on va rapporter?
Et là-bas au loin, un farci.
Oh. Ah, le farci poivre, c'est très sobre. Farci de légumes. Qui se mange froid. Chaque famille a sa recette, mais généralement, il y a du chou, évidemment, des blettes, de l'oseille, des épinards. On peut y ajouter, si on a envie de faire gourmand, un peu de lard, des œufs, quelques plantes aromatiques. C'est fin, délicieux.
Non, c'est génial.
C'est un peu comme la fricassée d'anguille.
On le disait, la fricassée d'anguille du marais Poitevin.
Ah oui, l'anguille qui est beaucoup moins présente qu'autrefois dans les eaux du marais. La pêche est extrêmement réglementée, mais il n'empêche que la fricassée d'anguille fait partie du patrimoine gastronomique de ce coin de France. Il se prépare à la poêle.
J'adore ça.
Avec quelques pommes de terre,
oh là farine, là.
Du persil, de l'oignon.
Et pourquoi pas, du coup, l'accompagner avec les mojettes. Vous connaissez les mojettes?
Bien sûr, les petits haricots.
Mais oui, c'est des haricots blancs secs de la famille des lingots. Alors, dans le marais Poitevin, ce haricot est implanté depuis le XVIIe siècle et ça a été pendant très longtemps une production importante là-bas. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une production à échelle familiale et traditionnelle. Alors, on peut les consommer secs, demi-secs ou encore frais. D'ailleurs, il se congèle très très bien, ce haricot, cette mojette. Et c'est vraiment le mets traditionnel qui est très apprécié là-bas. Et la bonne nouvelle, j'en suis ravie d'ailleurs, c'est que c'est très riche en nutriments et ça apporte un effet anti-stress à l'organisme. C'est bourré de vitamines, de magnésium, ça contient peu de sel, peu de matières grasses. Enfin bref, c'est à consommer du coup sans modération.
La mojette est anti-stress.
La mojette est anti-stress.
On en apprend toutes les semaines dans cette émission. Il y a pas mal de viande aussi dans les Deux-Sèvres.
Oui, parce que c'est un département qui est connu pour son élevage. Vous avez l'agneau de Poitou-Charentes, qui est une appellation d'origine protégée, allaité au lait maternel pendant 60 jours minimum. Parthenay possède le plus gros marché de bovins du département. La vache parthenaise est reconnaissable à sa couleur fauve. Elle est renommée pour sa tendreté, pour son goût particulièrement fin et pour son persillé absolument sublime.
Ça donne envie. Hein.
Vous nous parliez de la route du chabichot tout
oui.
à l'heure.
Ah ben forcément, je vais vous parler fromage.
Et forcément.
Le chabichot, c'est pas trop mignon ça, le chabichot. Alors c'est le chabichot du Poitou, c'est un fromage de chèvre qui détient une AOC, donc ce qui permet vraiment à ce fromage de se démarquer des autres. Il n'y a que 3 races uniquement qui peuvent produire le lait pour faire ce fromage et il faut environ 1,3 litre pour fabriquer ce fromage dans les règles de l'art de l'AOC et les dimensions sont vraiment précises. Et pour reconnaître un vrai et un bon chabichou, il doit être estampillé CDP, Chabichou, du Poitou.
Voilà, 1,3 litre de lait. Hein.
De lait de chèvre.
De lait cru, voilà.
Exactement.
Il y a d'autres fromages de chèvre dans ce département, parce que c'est là où les fromages de chèvre sont le plus produits pratiquement partout en France. Il y a également des beurres qui sont magnifiques, que ce soit le Poitou, oui. Charente, les Chirés. Et puis avec tout ça.
Avec tout ça,
on fait un tourteau fromager.
À base de fromage de chèvre.
Et ben voilà. Spécialité pâtissière poitevine, reconnaissable à son dôme brûlé. On a l'impression que c'est « Oh, mais il est brûlé ton gâteau !» Non, c'est exprès. Elle est préparée à base de fromage de chèvre frais, cuite dans un moule spécial en demi-sphère qui préserve une texture qui est moelleuse, fondante. C'est un régal absolu. Oh, là. Et il faut aller à l'Artigot, à la pâtisserie Bobo. Olivier Bobo est quasiment le dernier à faire le tourteau fromager de façon artisanale.
Ça donne envie, ça.
Qui est celui qui régale ce matin? Je vous raconte tout avec mes collègues. Dans un instant, on accueille Luc Maillard. C'est un ancien restaurateur sur Niort. Il est membre de l'association de la promotion de l'Angélique.
Ouais.
Angélique. L'inusable Tainted Love de Soft Cell sur RTL.
10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Jusqu'à 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Merci d'être avec nous ce matin dans RTL vous régale. Alors, je vous en parlais il y a un instant, ce n'est ni un fruit, ni un légume, non. Ni une confiserie.
Ni du fromage.
C'est une herbe. C'est une racine mystérieuse, Louise, au pouvoir magique. Elle aurait guéri la peste, importée selon la légende des pays scandinaves au XIIe siècle. Mais qui est-elle ?
Angélique ! Angélique ! On n'arrête pas le progrès.
Alors, mais attendez, c'est produit ou pas ? Alors, il nous fallait un expert pour percer ses secrets. Luc Maillard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Luc, racontez-nous qui est cette angélique secrète.
C'est une plante majestueuse de la famille des ombellifères, qui fait partie du céleri, du persil. Je dis bien des ombellifères, hein. Pas des apiacées.
D'accord.
Pas des opiacées d'ailleurs. Hein.
Ok, d'accord. J'ai rangé mon herbier depuis très longtemps, vous savez. Alors pourquoi, comment expliquer que l'angélique soit installée dans le marais poitevin spécifiquement?
C'est une terre propice à l'angélique. Le sol riche en humus qui se réchauffe au printemps est bien alimenté en eau. Donc la tête au soleil et les pieds dans l'eau, on dirait, pour de l'angélique. Et c'est une plante majestueuse qui, au XIIe siècle, était plutôt médicinale que culinaire. Le culinaire est arrivé bien après. D'ailleurs, elle s'appelait l'herbe des anges ou l'herbe du Saint-Esprit. Elle a été appelée angélique plus tard par son goût, qui a le goût d'angélique, qui est caractéristique à l'odeur d'angélique. Une odeur aromatique, suave et musquée, qui est un peu poivrée, et en même temps, on pourrait dire le genièvre.
Oui, c'est un peu comme le genièvre. On raconte évidemment que, on raconte beaucoup d'histoires, hein, il y a des légendes autour de l'angélique, mais les habitants de Niort, c'est ce qu'on raconte, faisaient boire de la liqueur d'angélique à leur gendre pour l'obliger à se marier avec leur fille.
Alors, c'est pas à Niort, c'est à Saint-Mexan.
Ouais, c'est
à Saint-Mexan, c'était des officiers. Donc on les piégeait, quand la jeune fille avait pris son dévolu sur un jeune, elle l'amenait à la maison, on arrasait de la galette angélique avec de l'angélique confite, et puis de la liqueur, les parents partaient laisser les deux tourtereaux
on
ensemble.
Laissait macérer l'affaire.
Oui, voilà, c'est le terme. Et ni automatiquement, bah, ce qui devait arriver arriva.
Et
là, on criait au scandale et le jeune officier était obligé de se marier avec
Mais il faut répéter ça, l'exercice, après tous les jours pour pas qu'ils s'en rendent compte.
Parce que quand les effets s'estompent, qu'est-ce qui se passe?
Et on devient addict à l'angélique.
C'est ça. On connaît assez mal hein, le goût de l'angélique. Luc, est-ce qu'on pourrait nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on disait tout à l'heure genièvre, mais pas que. Hein.
Oui, mais poivré, tout ça. Non, elle a son propre caractère. L'angélique a un parfum bien spécifique. Pour moi, c'est une bombe aromatique.
Mmh. C'est de couleur, c'est un peu de la chartreuse. Hein.
Ouais.
Ah ben, de toute façon, dans la chartreuse,
il y a de l'angélique.
Il y en a. Il y a de l'angélique, mais de toute façon, pour avoir des couleurs comme ça, il y a comment on met des colorants. Hein.
Forcément. Vous l'avez cuisiné, parce qu'on disait tout à l'heure, vous avez eu un restaurant très longtemps, vous l'avez cuisiné pendant pas mal d'années, vous avez réussi à l'associer aussi bien à des plats salés que sucrés, même si c'est plus facile de l'associer à du sucré que du salé.
Non, de partout temps, il y a eu de la cuisine à l'angélique. Il y a plus de 1000 ans, les Islandais cuisinent l'angélique. Les Lapones, en Laponie, c'est le seul légume qu'ils ont dans les ponces de renne qui gardent dans du lait.
Ah oui.
Ah oui, oui. C'est mais l'angélique par chez nous, si vous voulez, ça n'arrivait qu'au. C'était médicinal jusqu'au XVIIIe siècle.
Mais pour revenir à la cuisine, justement, vous en faisiez quoi dans vos cuisines, à vous, au restaurant?
Moi, personnellement, il m'a fallu du temps puisque je suis arrivé tard sur Niort. J'étais en Champagne avant, donc il m'a fallu déjà convaincre les Niortais de repartir sur l'angélique. Parce
d'accord.
Que
mais vous en faisiez quoi? Vous en faisiez quoi en cuisine?
Oh là, toutes les recettes des repas entiers, aussi bien une vinaigrette qu'une crème de butternut, il me reste des mauviettes que j'ai fait avec un gigot, j'en fais une velouté de mauviettes à l'angélique,
ah oui.
À beurre blanc,
une blanquette de veau, non?
Oui, j'ai fait une blanquette de veau à l'angélique, sans problème.
Moi j'avais vu une poêlée de langoustine avec une crème d'angélique.
Ah ben, j'ai une poêlée, non, une poêlée de langoustine, je la fais sur l'île de mesclun, avec flambée à la liqueur d'angélique, avec une petite pointe de vinaigrette à l'angélique.
Bah, angélique s'entend vraiment avec tout le monde, Luc.
Ah ben oui.
Une bonne fille.
Bon, c'est une bonne fille.
On a compris que votre association faisait la promotion de cette plante depuis 20 ans aujourd'hui.
Tout à fait.
Il y a désormais de la demande, mais il y a toujours assez peu de jeunes restaurateurs qui investissent dans l'angélique.
Alors, sur le secteur, si, on a la Roussy, on a la Belle Étoile, on a le Central, on a... Mais auparavant, il y avait plus de restaurateurs qui s'en occupaient.
Bon, mais elle revient en force. Voilà. Ce qui explique qu'au mois de mai, l'association crée une fête pour faire découvrir l'angélique, pour en savoir plus sur ses mystères. Eh bien, allez jeter un coup d'œil sur Poitvin, sur quoi? Sur l'association de promotion de l'angélique Niort, Marais Poitvin sur le net.
Tout à fait.
Appelez-nous, je vous rappellerai l'adresse, avec plaisir. Merci d'être passé par chez nous.
Luc.
En tout cas, c'était Luc Maillard, le spécialiste de l'angélique. C'était celui qui régale dans RTL vous régale.
Oui.
Merci Luc, on vous souhaite un bon week-end. Dans un instant, les petites gourmandises de Louise, il y a de la dégustation dans l'air.
Évidemment.
Ça sent le gâteau.
Ouf.
A tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL.
jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
La messe est terminée, les garçons. Je peux enfin vous faire un aveu. Et oui, j'ai eu un coup de cœur. Regardez ce que vous avez devant les yeux.
Bah oui, Sœur Louise.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah bah faudrait être aveugle pour pas voir que c'est un gâteau.
Ça, oui.
Exactement, c'est un gâteau qui s'appelle le Scoffa. Alors je vais vous demander pour l'instant d'être discret. Je vais vous raconter l'histoire de ce gâteau, parce que nous sommes en ce jour investis d'une mission, car il y a des secrets dans l'air. Alors déjà, pour commencer, pourquoi il s'appelle le Scoffa ? Alors tout simplement, le S comme sucre, le C comme crème, le O comme E, le F comme farine et le A comme amande. Donc ça vous donne déjà une petite idée. Alors le Scoffa ressemble à un peu à un millefeuille de meringue légère qui contient une garniture d'amande et une génoise. C'est un biscuit. Et comme vous pouvez le voir, il est recouvert de sucre glace, ce qui, je trouve, le rend encore plus gourmand et mignon. Mais alors, si je vous demande d'être discret, c'est que la recette est gardée secrète.
Tu m'étonnes.
Je n'ai rien pu savoir, rien de chez rien. Alors si, une seule chose, c'est que cette recette a été créée il y a une soixantaine d'années par un pâtissier de Saint-Mexant. Et au moment de partir à la retraite, eh ben, il a décidé de céder sa recette à qui ? Et bah aux sœurs carmélites de Niort.
Ah d'accord.
C'est donc un gâteau originaire de Niort. Alors ensuite, les sœurs ont protégé cette recette en déposant la marque Scoffa, en le distribuant sur Niort. En 2002, la recette et les droits d'exploitation ont été partagés aux moines de Ligugé vers Poitiers. Alors il paraît même qu'aujourd'hui, les sœurs carmélites de Lisieux et Bayonne auraient aussi la recette.
Et nous on l'a pas.
Et cette recette reste toujours complètement secrète. Alors, j'ai cherché, hein. Je peux vous dire que j'ai cherché, j'ai trouvé de nombreuses recettes sur Internet, mais la véritable est cachée.
Vous avez appelé les sœurs ou
j'ai
pas?
J'ai appelé les sœurs, voilà. J'ai appelé les moines, rien, ils n'ont rien voulu me dire, donc je suis un peu les peurs, mes frères et mes sœurs. Je suis un peu démunie parce que franchement, je trouve que ce gâteau est absolument délicieux.
Mais pourquoi vous voulez la recette?
Ben, parce
pour
que
en refaire.
J'ai envie d'en refaire.
Il suffit de le racheter.
Ben non, mais j'adore
c'est
avoir.
Pour ça.
Quand il y a un secret, il faut toujours percer le mystère. Alors du coup, j'ai eu une idée. Et ben, c'est de vous le faire goûter.
On n'en peut plus, allez-y.
Allez-y.
On peut y aller.
Goûtez-le, dites-moi ce que alors, vous en pensez.
Jean-Seb.
Et essayons tous les trois de trouver la recette.
Attendez, j'en mets partout.
Je peux vous dire que je vous en donnerai jusqu'à ce que mort s'en suive tant qu'on ne trouvera pas cette fameuse recette.
Non, on n'a pas fini.
Alors, est-ce que vous trouvez ça bon ?
Il y a du sucre. Il y a du sucre.
Il y a du sucre, il y a de la crème.
Il y a de la crème.
Il y a des œufs.
Il y a de l'amande.
Oui, il y a de l'amande. Je continue de faire un petit appel aux sœurs carmélites de Niort et aux moines de Ligugé, bien sûr, tout le monde. Si l'envie vous prend de me donner la recette, surtout, vous n'hésitez pas. Vous appelez le standard. Je vous jure que je ne le répéterai à personne. Je fais une obsession sur cette recette.
Je venais de me servir un café. C'est très bon sur le café.
Vous aimez ?
J'adore ça.
Ah, mais je suis contente. Vous savez, cette génoise, c'est un biscuit un petit peu léger, avec contrebalancé avec cette crème. Et même s'il y a de la crème, eh ben, il n'est pas très calorique. En tout cas, il est moins calorique qu'un gâteau basque.
D'accord.
C'est pas mal, non ?
Ouais,
mais en fait, ce qui est bien, c'est que je pense que le sucre est légèrement caramélisé. Donc, du coup, ça donne une espèce de crème caramel qui est plutôt pas mal.
Moi, ce qui me surprend, c'est que, regarde, on a l'impression que c'est une espèce de millefeuille. Et c'est forcément pas, c'est pas ça, c'est une génoise. C'est surprenant quand on goûte, du coup.
Exactement, c'est l'effet.
Le visuel est très millefeuille.
Alors, au début, il était vendu en forme ronde. Et après, dans les années 2000, ils l'ont fait en forme carrée pour faciliter, bah, évidemment, la vente par part. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez goûter, vous procurer ce Scoffa, vous pouvez aller à la Maison des produits régionaux à Effre, qui est sur l'aire d'autoroute Poitou-Charente de la 10, donc on peut très bien se garer. D'ailleurs, je les remercie, c'est grâce à eux qu'on a ce Scoffa aujourd'hui. On peut aussi aller à la Bessinoise, qui est une boulangerie à Bessines, qui fait également ce Scoffa. Enfin, qui est fabriqué par les moines, attention. Et je voulais remercier l'Office du tourisme de Niort qui a œuvré pour qu'on ait ce beau Scoffa et bon Scoffa devant les yeux.
Vous en pouvez plus, vous êtes tombé.
Mais oui, mais moi,
vous avez un crush sur le Scoffa,
j'ai l'impression. J'ai un crush. D'ailleurs, si vous aussi qui nous écoutez, vous goûtez ce Scoffa et vous êtes tombé un petit peu dans le piège de l'amour du Scoffa, il y a un groupe Facebook été créé par les adorateurs du Scoffa qui s'appelle Scoffa. Alléluia.
Vous me donnez une idée. il devrait y avoir un groupe Facebook ou quoi, des adorateurs du défi frigo. Vous savez, la secte du défi frigo. Parce que dans quelques instants, vous allez de ça nouveau vous affronter tous les deux.
Oui.
Louise contre Jean-Seb. Je vous révélerai.
C'est facile de parler.
Ah oui, c'est ça, évidemment. Il faut se rincer après. Dites-moi, je vous présenterai Jean-Paul qui vient d'appeler le 3210. Je sais qu'il est là dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il va vous révéler l'ingrédient du défi frigo de ce matin. Il y a un magnifique séjour à gagner. On s'en reparle dans quelques minutes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeck.
RTL. Revivre ensemble. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Attention, défi frigo en vue. Impact dans 4 minutes. On vous en parle dans quelques instants, mais avant cela, nous allons nous radioporter du côté de Rennes. Nous sommes à Breteuil, où nous attend Jean-Paul. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Louise, bonjour Jean-Michel, bonjour Sébastien.
Bonjour. Comment ça va Jean-Paul ?
Ça va très bien, très bien, très bien, je vous écoute, c'est super.
Je sais que vous avez un jardin, Jean-Paul.
Oui, bonjour Louise. Oui, j'ai un jardin, oui. Alors la commune nous met à disposition un terrain et des parcelles de 100 mètres carrés. Donc voilà, les jardins du Fresne et nous sommes une quarantaine de jardiniers.
J'aime beaucoup ce principe.
Donc c'est un fruit ou un légume, j'imagine.
C'est un fruit ou un légume.
Ça va être un légume.
Alors moi je sais de quoi il s'agit. Louise et Jean-Seb ne savent pas encore. Moi je sais de quoi il s'agit. C'est un légume de circonstance, de saison. Et quand je dis de circonstance, c'est le truc qui annonce Halloween.
Voilà,
vous êtes...
La citrouille, la citrouille.
Et évidemment, vous voulez pas une sculpture, on met une bougie dedans, quoi.
Oui, voilà.
Deux véritables...
Moi, je préfère la cuisine quand même avec qu'Halloween.
Bah, vous tombez bien, vous avez frappé à la bonne porte. Deux véritables recettes de cuisine. L'enjeu de ce défi frigo ce matin sera donc la citrouille. Le match commence dans un instant après les infos RTL. On vous souhaite une très très bonne matinée. On est là en direct jusqu'à 11h30. Vous écoutez RTL ?
RTL, 11h03, on continue à se régaler. C'est l'heure du défi frigo, Jean-Michel Zeka. On joue avec la citrouille.
Alors, j'ai envie de vous dire, après les courses, les courges. C'est le thème du jour. On va jouer avec ça, avec deux recettes originales dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Merci. Prochaines infos, tout à l'heure à midi.
À tout à l'heure.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite.
Jade, j'ai une bonne nouvelle. Je sais que vous avez toujours froid dans le studio d'Orphée la télé.
Oui, c'est vrai.
Ce matin, vous allez pouvoir porter la chapka de Marlowe.
Ah, c'est mieux.
C'est bien, Sancho. C'est bien.
C'est notre thème ce matin. Capitaine Marlowe reçoit dans l'un de ses épisodes Nolwenn Leroy, notre invitée. Elle est avec nous à 11h30. A tout de suite.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Ah tiens, j'avais pas pensé ça.
À quoi ?
Bah une blanquette à la citrouille.
Merci Louise.
Voilà.
L'impact dont je vous parlais vient d'avoir lieu, mais le problème c'est que Louise l'a pris de plein fouet. Il est 11h05. Voici le défi frigo de ce samedi 16 octobre grâce à Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes là ?
Tout à fait, je t'écoute, oui.
Que vont-ils faire de votre citrouille ?
Ah là là.
Vous voulez commencer avec qui, Jean-Paul ?
Avec Louise.
C'est parti. Ah. 1 minute 30, montre en main, faites-nous rêver.
Alors, Jean-Paul, je vais vous proposer des gnocchis à la citrouille. Alors, pour ça, vous allez donc, bien sûr, éplucher votre citrouille. La faire cuire 10 minutes à l'eau bouillante salée. Ensuite, vous allez en faire une purée avec un presse-légumes. Vous allez prendre vos petites mains, Jean-Paul, et vous allez mélanger cette purée avec de la farine, une pincée de sel et un œuf. Vous mélangez. Tant qu'elle est collante, vous rajoutez de la farine. Dès qu'elle n'est plus collante, ça veut dire que c'est bon. Vous allez former des petits boudins pour faire la forme de vos gnocchis, prendre une fourchette, estampiller votre petit boudin pour avoir vraiment cette forme gnocchi, et vous allez faire bouillir de l'eau. Y jeter vos gnocchis. Et une fois que les gnocchis, ça c'est la petite astuce, sont remontés à la surface, ça veut dire qu'ils sont cuits. Vous récupérez vos gnocchis. Vous allez prendre une poêle avec du beurre, Jean-Paul. Et vous allez faire revenir vos gnocchis pour les faire légèrement dorer. Vous allez voir, ça a une couleur qui est absolument irrésistible. Avec ça, vous pouvez, alors selon vos goûts, hein, mais moi personnellement, je me suis fait des petits boudins blancs le week-end dernier. Et je me dis que boudin blanc, gnocchi à la citrouille, ça pourrait très très bien aller ensemble.
Ah, c'est intéressant. Boudin blanc,
après,
juste poêlé.
Après, vous pouvez juste poêler.
Ouais, c'est pas mal.
Avec le petit côté sucré de la citrouille. Mmh. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, genre un peu en accompagnement.
Ben, je commence à avoir faim, là.
Un indice. Un indice sur l'issue du duel. J'ai donc à ma gauche des gnocchis de citrouille, grâce à Louise. Il a terminé ses assouplissements. Ça fait 1 minute 30 qu'il se prépare. Jean-Sébastien est là. C'est un athlète qui parle. C'est parti.
Que diriez-vous, Jean-Paul, de faire des kabaks tatlissi?
Pardon?
Oui.
Des...
Un dessert.
C'est un dessert quoi?
On va faire un dessert turc.
C'est turc.
Oui, absolument. Vous allez peler cette citrouille, enlever les pépins, couper cette citrouille en cubes. Vous lavez les morceaux, vous les essuyez soigneusement. Vous posez ces cubes de citrouille sur une plaque qui va au four. À partir de là, vous recouvrez les cubes de citrouille de sucre en poudre.
C'est un turc.
Et vous les laissez reposer une heure comme ça sous le sucre. Prenez votre plaque, votre four aura chauffé à 240 degrés thermostat 8 et vous allez enfourner la plaque. Pendant 30 minutes, en prenant soin de remuer, de retourner, de mélanger vos cubes de citrouille dans le sucre toutes les 5 minutes, vous allez voir que ça va devenir fondant, confit. Les citrouilles vont cuire dans leur jus, se mélangeant avec le sucre qui caramélisera légèrement. Vous allez ressortir ça au bout de 30 minutes, vous laissez refroidir. Vous pouvez mettre un peu de noix de coco, un peu d'amande écrasée, un peu de noisette pilée. Et vous avez une formidable confiserie. Cette citrouille confite turque qui est magnifique.
Jean-Sébastien Petit-Demange, le Atatürk du dessert à la courge. Je dis bon, bravo. Et tout ça en turc
on
en plus.
Parce que,
vous avez entendu, hein, faut bien faire revenir les coupes des citrouilles. Bon, on a un dessert qu'on intitule comment ?
Eh ben, le kabak tatlissi.
Le kabak tatlissi.
Voilà.
Ou alors plus simplement, les gnocchis de courge.
Pourquoi plus simplement ?
De citrouille.
De citrouille. Voilà. Jean-Paul.
Oui.
Il vous revient de choisir maintenant entre ces deux recettes, l'athlète Jean-Sébastien ou la divine Louise.
Alors, je vais dire franchement, je ne suis pas très sucré, donc je pense que je vais faire confiance à Louise.
Ah là 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 là.
Parfait, Jean-Paul.
La confiance, c'est pas la confiance, j'ai confiance aussi en Jean-Sébastien.
Non, j'ai bien
pas
noté.
De problème, hein. Mais ça m'inspire, voilà, je suis plus salé que sucré.
J'avais vu le truc arriver. Ah non, j'avais vu le turc arriver.
C'est ça, voilà, oui, oui.
Et vous êtes boudin blanc ou pas?
Pardon,
oui,
Louise.
Je demande à Jean-Paul s'il est boudin blanc.
Je vous en prie.
Oui, boudin blanc, tout à fait. La recette me convient, mais absolument, tout à fait. Oui.
Et pourtant, on se connaît peu. Oui. Jean-Paul, dites-moi, vous avez bien fait de nous appeler. Vous avez choisi la recette de Louise, et grâce à elle, et grâce un peu à vous aussi, vous allez pouvoir partir pour un séjour de 2 nuits avec un dîner à l'hôtel Relais Château 5 étoiles Thalasso de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien.
Oh là là,
vous venez de gagner un séjour unique dans les Pyrénées-Orientales. Vous serez en bord de mer, entouré de la montagne, bercé par le doux soleil du Roussillon. L'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage, empreint de sérénité et de douceur de vivre.
Ah mon Dieu, oh là là.
Montez donc au dernier étage, Jean-Paul, une thalasso spa. Face à la Méditerranée vous attend. Je réserve votre peignoir, il sera brodé à vos initiales, JP. C'est un lieu unique, dédié au bien-être. Et là, vous vous installerez. Et avec vos petites pantoufles, vous savez les petites pantoufles Les Châteaux, en mousse? Et bien là, avec votre baladeur sur les oreilles, vous vous souviendrez de ces gnocchis à la citrouille.
Oui, absolument. Je penserai à Louise, il n'y a pas de problème.
Bravo Jean-Paul.
Bah merci.
On vous souhaite un très très bon séjour et merci d'écouter RTL vous régale le week-end.
Merci beaucoup à vous, merci.
C'est sympa d'être passé par là, merci beaucoup. Pour lancer un défi frigo à Louise comme Jean-Paul, et c'est très simple, vous appelez le 3210 encore pendant une petite demi-heure ou 64 900 par SMS avec le mot régale parce que le casting continue pour la semaine prochaine. L'ambassadeur d'RTL vous régale dans un instant. Il s'appelle Charles Brumeau, il est nutritionniste. Vous savez qu'aujourd'hui se tient la journée mondiale de l'alimentation. On en parle après Calogero.
On le voit passer rue de la Grande Horloge, ramasser dans ses poches des petits morceaux d'instant. On le voit tisser du bout de ses aiguilles sur les garçons, les filles, des filets de cheveux blancs. qu'il ne s'arrête pas. Et tant pis s'il ne nous attend pas. Le temps court alors ne t'en fais pas. On l'invite pourtant le temps ne fait pas. Pas de manière et il s'enfuit déjà. Comme toujours le temps ne fait que passer. On le voit souvent soulager les chagrins sur les joues des copains, faire s'envoler les absents. Lui qui passe, qui nous regarde dans la glace, lentement nous efface et change la voix des enfants. S'il va vite, qu'il ne s'arrête pas. Et tant pis s'il ne nous attend pas. Le temps court alors ne t'en fais pas. On l'invite pourtant, le temps ne fait pas. Pas de manière et il s'enfuit déjà. Comme toujours, le temps ne fait que
titre extrait de l'album Centre-ville de Calogero sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renard.
RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Attention, j'annonce l'arrivée de l'ambassadeur d'RTL vous régale pour ce samedi matin. Vous savez qu'aujourd'hui se tient la journée mondiale de l'alimentation. Bonjour Charles Brumeau.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Je précise d'entrée de jeu que vous êtes nutritionniste. Alors Charles, ma question est très simple. L'aile ou la cuisse?
Ah, ça fait peur.
Et les deux, les
ah
deux
bah, et voilà. C'est un peu l'état d'esprit qui vous anime. Et c'est pour ça que je voulais vous entendre à ce sujet. Parce que si on vous invite aujourd'hui, parce que chaque week-end, évidemment, dans RTL vous régale, on voyage, on marche, on découvre, mais surtout, on mange. Et en gros, le manger et bouger, c'est un peu notre devise depuis la création de cette émission. Charles, je vous cite. Manger, on va le faire toute notre vie, c'est-à-dire à peu près 95 000 fois. C'est un acte très important pour notre santé et notre bien-être mental. Alors c'est vrai que parfois on peut se détendre, hein, se foutre un peu la paix en prenant une pizza, des chips, des plats plus énergétiques, mais on a plein d'autres moments pour continuer à prendre soin de nous et de notre jardin intérieur. Donc on ne va pas franchement parler régime avec vous et c'est ça qu'on aime bien.
Ah bah ça, on est bien d'accord,
ah,
parce qu'effectivement les régimes c'est quelque chose qui ne marche pas.
Ça ne marche pas, aujourd'hui. Voilà.
Oui,
on va pas parler d'abstinence, on va pas parler d'abstinence non plus.
Encore moins, c'est tellement triste, franchement.
Donc vous, votre credo c'est le manger pour se faire plaisir.
Exactement, manger c'est un acte super important, super fondamental dans nos vies de tous les jours, c'est aussi se mettre des émotions sensorielles en bouche, et le problème en fait c'est que ces dernières années on a tendance à découper les aliments en nutriments, vous savez, les protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Et autant ça peut être très important dans le cadre thérapeutique, mais dans notre alimentation à nous de tous les jours, bah c'est super triste, ça ne sert à rien. Donc moi, je préfère parler de plaisir de la vue, de contraste visuel dans l'assiette, de la couleur, de prendre le temps, de porter son attention à justement à ce qu'on va se mettre en bouche, d'observer la texture qui se modifie progressivement dans le palais et ressentir que bah, ça nous fait du bien et justement qu'on se régale, pour reprendre un peu le titre de votre émission.
Charles, je rappelle que vous êtes nutritionniste, alors on va évidemment...
J'y tiens, nutritionniste, j'y tiens, c'est important.
Mais bien sûr, on rappelle ce que signifie nutritionniste, parce que parfois les gens font l'amalgame entre diététicien, nutritionniste, etc.
Absolument. Alors, diététicien, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et donc c'est au moins 2 ans d'études. Mmh. Et quand on est nutritionniste, et ben, on peut être médecin nutritionniste, donc quelqu'un qui a fait médecine et qu'ensuite qui a fait un diplôme de nutrition d'environ à peu près 100-150 heures. Et on peut aussi trouver, comme ce terme n'est pas réglementé, on peut trouver des coachs en nutrition, des nutritionnistes, des nutrithérapeutes. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu à boire et à manger. Donc, il y a des gens très, très bien dans les nutritionnistes et des gens qui sont un petit peu bof-bof, quoi, qui ont lu 10 bouquins en nutrition et qui s'improvisent.
On a bien compris. Ouais, voilà. C'est bien de le préciser quand même. Charles,
oui,
on entend mille et une choses aujourd'hui sur la manière dont on devrait, dont on devra manger dans l'avenir, notamment au sujet de la viande. On serine, et je pense à juste titre qu'il faut en manger moins, mais de meilleure qualité, vous confirmez ?
Oui, absolument. En fait, on n'a pas besoin d'en manger tous les jours pour être en bonne santé. Sinon, je pense que celles et ceux qui n'en mangeraient pas seraient en position latérale de sécurité depuis un petit bout de temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Et l'idée, c'est en fait de revenir plutôt à une consommation raisonnée, raisonnable, surtout vu les enjeux environnementaux qui nous guettent, et de tendre vers une consommation un peu de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quelque chose d'un petit peu plus raisonnable, en choisissant bien sûr ce que vous dites, peut-être chaque semaine, bien choisir ses viandes, du local, si possible des filières bien qualitatives.
Oui. Les labels, les AOC,
exactement.
Les AOP.
Ils vont... Ouais, les filières bleu-blanc-cœur, etc. Mmh. C'est des qualités nutritionnelles plus intéressantes. Et puis surtout, commencer à intégrer petit à petit des mélanges de céréales légumineuses pour avoir tous les acides aminés dont le corps a besoin. Et là, vous avez parlé, je crois, dans votre émission des mojettes.
Oui. Les haricots
blancs secs.
Très bon pour la santé.
Exactement. Donc, essayer de les intégrer petit à petit dans notre quotidien. Et notamment, bah, oui, vous avez parlé des vertus anti-stress. C'est parce qu'il y avait de la teneur, une teneur importante en magnésium dans les mojettes.
Charles, vous connaissez le credo, la devise de Louise Petit-Renault, qu'elle martèle dans l'émission depuis des semaines, le gras,
c'est la vie.
Est-ce que vous partagez cette maxime ?
Ah ben c'est, oui, littéralement c'est la vie, je suis d'accord avec Louise, effectivement, bah, le gras ça fait partie des constituants de base de notre organisme, hein. D'ailleurs c'est grâce aux matières grasses, excusez-moi pour cette tautologie, qu'on fabrique nos hormones. Les hormones stéroïdiennes comme les œstrogènes, la testostérol.
Voilà.
Et puis c'est important aussi pour le maintien des fonctions cérébrales, hein, puisque notre cerveau est majoritairement constitué de graisse. Et puis ça nous sert aussi à transporter certaines vitamines dans notre corps. Et moi, je dis à mes patientes qui me disent « Ouais, je veux manger des carottes râpées sans sauce parce que c'est important et tout bah, », je leur dis bah, aussi, vous savez, le bêta-carotène des carottes, la provitamine A, le truc qui vous donne bonne mine en gros, bah, vous n'allez pas le fixer parce que pour qu'il soit bien fixé par le corps, il faut qu'il soit associé à une matière grasse comme l'huile d'olive ou l'huile de colza. Du coup, manger light, là, pour le coup, ça ne vous sert à rien, ce n'est pas pro-vivant.
Mais il faut quand même qu'on s'entende sur ce qu'on appelle le gras. Quand vous dites, ok, le gras, c'est on peut en manger, pas n'importe lequel et pas dans n'importe quelle quantité.
Oui, oui, oui. Alors oui. Bon, là, c'est plutôt les recommandations, c'est à peu près 35% de nos apports énergétiques par jour. Donc après, c'est la qualité des matières grasses qui est importante. Les seuls gras vraiment à limiter au quotidien, c'est plutôt ceux qui augmentent le risque athérogène, c'est les acides gras trans, bon, d'origine technologique, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est en gros tout ce qui est dans les viennoiseries, les pâtisseries industrielles,
oui,
les pâtes brisées, les biscuits apéritifs, les chips, les margarines de mauvaise qualité. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de bannir absolument ce type de graisse, c'est plutôt
Et quand on cuisine, on fait forcément plus attention.
Oui, oui, oui. Ah bah, dès qu'on fait plus de fait maison, eh bien, du coup, on a plus d'aliments vrais, bruts, c'est... reconnaissables.
Pas de conservateurs.
C'est exactement la philosophie de qu'on a ici. C'est il faut manger mieux, faire du fait, mais effectivement, cuisiner à la maison, des produits sains. Il faut arrêter le super transformé.
Produits de proximité.
Produits de proximité.
France,
oui, français, c'est vous l'avez. Vous l'expliquez formidablement dans votre podcast que j'ai découvert, qui s'appelle Dans la poire. Il faut aller écouter ça. Vous avez la white card pour venir chez nous, Charles.
Ah oui, venez nous voir.
C'est un bonheur de parler avec vous.
Et vive les carottes râpées à la vinaigrette.
Voilà. Et faites de vos repas des moments de joie. C'est un peu votre credo. Voilà, vive le bon gras. Je rappelle qu'on peut retrouver, on peut retrouver vos conseils et votre SAV de l'alimentation sur votre compte Instagram, hein, Charles Brumeau avec AULD. Merci mille fois, Charles. Merci. Et à bientôt.
Merci à vous. Bonne journée.
Allez, dans un instant, le petit pas plus loin, le petit pas très loin même, va nous emmener en Louisiane. Quel est le lien entre les Deux-Sèvres et la Louisiane?
Vous verrez bien.
À tout de suite.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zer.
RTL. 10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Petit pas très loin, effectivement, qui nous emmène en Louisiane. Parce que, un peu comme les Deux-Sèvres, c'est un pays d'eau. D'abord, il y a un fleuve, le Mississippi, troisième cours d'eau le plus long du monde après le Nil et l'Amazone, avec 3780 km. Première ville qui vient à l'esprit en Louisiane, la Nouvelle-Orléans, ville atypique, surprenante, qui est au cœur du delta du fleuve. On est dans le sud. On ne peut être que fasciné par une lumière qui peut créer des toiles de maître lorsqu'elle inonde des forêts de cyprès géants, des saules recouverts de mousse. Les jacinthes font office de filtre lorsque le trait de soleil tape dans l'eau. Et quand on est dans ce royaume silencieux peuplé de castors, de ragondins, de serpents, d'alligators, on est du côté de Bâton Rouge. À 50 km à l'ouest, vous avez un endroit totalement hallucinant qui s'appelle l'Atchafalaya Basin. C'est là que les Cajuns ont fait souche. Ils ont trouvé refuge sur cette terre inhospitalière, obligés de fuir les persécutions anglaises qu'ils subissaient plus au nord. Car les Cajuns venaient de l'Acadie, au Canada. L'Acadie française, jusqu'en 1713, a été livrée par Louis XIV aux Anglais. À force de vexations, d'humiliations, de harcèlement, les Acadiens eurent le choix entre l'abandon de leur terre ou la prison. Les Acadiens venaient essentiellement du Poitou.
Ah, voilà.
Ils sont partis en quête d'une vie meilleure, fuyant la pauvreté et les persécutions religieuses parce qu'ils étaient protestants. Lorsqu'on se retrouve dans le bayou de Louisiane et qu'on croise des Cajuns qui sont encore fiers de leurs origines poitevines, on se dit qu'ils sont bien indulgents et tellement clairvoyants.
C'est génial. Voilà le lien. Il y a des Cajuns qui s'appellent François, hein, vous savez.
Oui.
François Bayou.
Voilà.
Je l'avais. La semaine prochaine, RTL vous régale sera à Avignon, les amis.
Oui.
Les Côtes du Rhône à l'honneur.
Le pont.
Château-Neuf-du-Pape. C'était un bonheur. Merci. C'est passé trop vite, comme toujours. Louise, Jean-Seb, je vous fixe rendez-vous samedi prochain dès 9h. On vous embrasse tout de suite. Vous allez retrouver Jade et Eric Dussard pour On refait la télé. Ils reçoivent Nolwenn Leroy. Je vous rappelle que cette émission RTL vous régale est à réécouter sur l'appli RTL. Très bon week-end. À samedi prochain.